BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Votre intimité prend l'air jusqu'à 18h. Votre intimité patrimoniale. On va mettre à nu les placements, leur dessous, pour vous aider à choisir ceux qui répondent le mieux à vos besoins et le tout au rythme des marchés. Bienvenue à tous. D'ailleurs, si vous nous rejoignez en direct, il est un peu plus de 16h et notre CAC 40 est toujours en progression. 7092 points. On gagne 0,7% à Wall Street. Alors, on est un petit peu mitigé à un peu plus d'une demi-heure de cotation. Eh bien, on voit ce Dow Jones qui bascule en territoire légèrement négatif, mais le S&P et le Nasdaq sont toujours clairement dans le vert après les indicateurs américains, encore une fois, surprenants, supérieurs aux attentes, les indicateurs américains du jour. Par exemple, les commandes de biens durables, deux fois supérieures aux attentes, elles progressent contre toute attente, de 5,6% les commandes de biens durables. On voit aussi le nombre de nouveaux inscrits au chômage reculer, alors qu'on attendait une hausse des nouveaux inscrits au chômage, pas du tout, c'est une nouvelle baisse, à un plus bas d'avril même, les nouveaux inscrits au chômage, 186 000 seulement sur la semaine écoulée, puis le PIB américain surprend aussi, il est supérieur aux attentes. Dans un instant, Faiza Younzi nous livrera le détail de ce chiffre tout frais du PIB américain qui a été publié en tout début d'après-midi. On va parler donc de la réaction des marchés à ces indicateurs, des publications aussi très nombreuses. IBM dans un instant. On va zoomer sur IBM avec John Plassard qui sera en direct avec nous depuis Mirabeau, Tesla bien sûr, et puis à Paris, la star du jour, ST Microelectronics. Étienne nous en parlera, Étienne Braque bien sûr, dans un instant. Et puis sur le marché de l'immobilier, Paris sera toujours Paris. C'est la ville au monde la plus plébiscitée par les plus riches. C'est ce que nous dit cette nouvelle enquête publiée par Barnes. Paris arrive devant Miami, devant New York, devant Dubaï. Paris, Paris, Paris. Oui, mais pour vous, est-ce que Paris constitue vraiment une opportunité alors que les prix sont encore proches de leur plus haut? On pose la question aujourd'hui à notre expert, c'est Pascal Bonnefille pour Immoweek qui nous accompagne. On est à vos côtés, oui, on joue dans votre camp toujours. Et tout de suite, on va aussi donc parcourir l'ensemble de l'actu grâce à Faiza Younzi en démarrant par cette autre bonne surprise pour l'économie américaine. Le PIB du quatrième trimestre, il est meilleur qu'attendu.
BFM Business, l'info éco.
Et oui, ça vient de tomber. La croissance américaine fait mieux que prévu au quatrième trimestre avec 2,9% de hausse de PIB en rythme annualisé grâce à la solidité de la consommation des ménages américains. Sur l'année 2022, l'activité progresse de 2,1%, mais un ralentissement est désormais attendu sous l'effet du resserrement monétaire de la réserve fédérale américaine. Toujours aux États-Unis, American Airlines confirme la reprise de la demande pour le trafic aérien. La compagnie prévoit une forte hausse de ses bénéfices en 2022. Avec la reprise des voyages, ses revenus ont bondi de 17% au quatrième trimestre et son bénéfice avoisine les 830 millions de dollars. En Europe, les dividendes devraient battre des records cette année. Les sociétés cotées pourraient verser 387 milliards de dividendes à leurs actionnaires, un chiffre historique, mais la progression de ces dividendes reste faible pour la deuxième année consécutive. C'est encore un géant de la tech qui annonce un plan social massif. Cette fois-ci, c'est SAP qui va supprimer 3000 emplois dans le monde, soit 2,5% de ses effectifs. Le groupe allemand veut engager une restructuration dès cette année et se focaliser davantage sur son activité cloud. Eramet veut extraire du lithium en Alsace en partenariat avec Électricité de Strasbourg. Le groupe minier étudie la possibilité de produire du lithium de sources géothermales d'ici la fin de la décennie. Eramet envisage d'en produire 10 000 tonnes par an, ce qui permettrait de fabriquer environ 250 000 batteries électriques. Et Suzuki, justement, va investir massivement dans les véhicules électriques. 32 milliards d'euros d'ici 2030. Le constructeur japonais prévoit de commercialiser ses véhicules en Europe et en Inde dès 2024 et ses premières motos électriques l'année d'après. Coup de théâtre chez Toyota qui change de patron à partir du 1er avril. Koji Sato va devenir le PDG du premier constructeur mondial après en avoir été le directeur opérationnel. Il va remplacer Akio Toyoda, le petit-fils du fondateur à la tête du groupe depuis 2009, qui lui va prendre la présidence du conseil d'administration. Et on termine avec la contestation contre la réforme des retraites qui a repris aujourd'hui dans le secteur pétrolier et les centrales EDF. Un mouvement très suivi au sein des raffineries de Total Energy. La CGT a recensé 100% des grévistes dans le Nord, 80% en Normandie. Du côté d'EDF, la mobilisation a entraîné à la mi-journée une perte de puissance disponible équivalente à celle d'un réacteur nucléaire.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Faiza, vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi bien sûr. Et depuis la Tour Euronext, Étienne Braque nous attend. John Plassard aussi dans les starting blocks pour évoquer Wall Street. John, on vous aperçoit, on vous rejoint dans un instant. Wall Street est en train de limiter un peu ses gains, comme notre CAC. Étienne, on vous retrouve. On a touché tout à l'heure un nouveau plus haut annuel et on est en train peu à peu d'effacer une partie de nos gains.
Oui, puisqu'après avoir touché des plus hauts annuels, on a un indice parisien qui revient sous la barre des 7100 points. 7094 points à l'instant, c'est une petite hausse de 0,7%. Le tout avec des volumes d'échanges qui sont présents. Depuis le début de la semaine, on voyait des volumes sous les 3 milliards d'euros au fixing. Ce soir, on devrait être au-dessus, hein, puisqu'on a déjà 1,7 milliard d'euros échangés. Avec pour une fois des marchés qui accueillent bien des nouvelles macroéconomiques meilleures que prévues. Hein. Pendant un temps, dès qu'on avait des nouvelles macroéconomiques meilleures que prévues, eh bien, on avait un marché qui baissait, hein, puisqu'il se demandait comment allait réagir la Fed. Aujourd'hui, eh bien, on a un marché action qui est uniquement focalisé sur les publications d'entreprises. Et aujourd'hui, c'est un très bon cru, hein, puisque quand vous regardez les publications, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, dans l'ensemble, c'est très bien accueilli. Il suffit de regarder ST Microelectronics, plus forte hausse de l'indice parisien, plus 6%, 41,95€, après des résultats bien meilleurs que prévus. Un secteur des semi-conducteurs qui avait sous-performé pendant un temps, avec le marché qui craint toujours une récession, même si cette crainte s'est un peu amoindrie. Et là, aujourd'hui, on a un groupe qui arrive à convaincre, notamment d'un point de vue de ses perspectives. Et donc, ça plaît au marché. Et puis, à noter qu'on a une nette surperformance à Paris par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport au DAX à Francfort, car le secteur du luxe continue de tracter l'indice parisien. Quand vous regardez Hermès, qui est à 1699€, c'est un gain de 2,5%, nouveau plus haut historique. Quand vous regardez également LVMH, qui est sur des plus hauts avant la publication de ses résultats ce soir, un titre qui est à 801€. Et puis, vous avez aussi Tod's, du côté de Milan, qui gagne quasiment 5% après avoir publié son chiffre d'affaires 2022 et qui confirme que la dynamique dans le luxe est toujours au rendez-vous, notamment du côté de la zone Amérique. Ça rassure. À l'inverse, vous avez Pernod Ricard qui perd un petit peu de terrain, valeur défensive qui avait plutôt bien tenu depuis le début de la semaine et qui perd 2,5% dans le sillage du numéro 1 Diageo à Londres qui perd un peu plus de 4%. Ralentissement de la croissance du côté des États-Unis, ça sera à surveiller ce soir du côté de LVMH et pour l'ensemble du secteur du luxe. Et puis dans le même temps, Diageo qui est prudent pour l'exercice 2023, et sachant qu'on est sur des niveaux de valorisation assez élevés sur ce secteur des spiritueux, on assiste à quelques prises de bénéfices, que ce soit pour Diageo qui perd donc 4,2% ou encore pour Pernod Ricard qui perd 2,5%. Et puis hors CAC 40, séance très volatile pour SES Imagota qui perdait plus de 10%, résultat record, hein, avec ça y est les contrats de Walmart qui commencent à prendre effet, titre qui perdait 10% et qui là perd 4,5%, 112,40€, malgré des objectifs qui sont très solides pour les prochains mois. Mais un titre qui avait explosé l'année dernière, souvenez-vous, il avait gagné plus de 60% en 2022.
Effectivement, et touché d'ailleurs des records historiques. En passant, une valeur vient quand même casser un peu l'ambiance. Bon, quand on a une séance de hausse comme ça, avec autant de publications saluées, ça fait toujours un peu mal quand sa propre publication est au contraire jugée décevante, ou en tout cas sanctionnée. C'est le cas d'Elior cet après-midi, Étienne.
Oui, Elior, on est dans le secteur de la restauration collective, secteur qui a été massacré avec la pandémie et aujourd'hui il doit faire face à un nouveau défi, le défi de l'inflation, avec des contrats, que ce soit dans les hôpitaux, les cantines, services publics et puis aussi dans le secteur privé. Et là, ce matin, le groupe qui déçoit un petit peu sur le fait de l'inflation. Il a renégocié 70% de ses contrats par rapport à cette inflation et on a des analystes qui s'attendaient un peu plus. Et dans un secteur très concurrentiel, ça fait un petit peu douche froide sur le marché. Puis là aussi, il ne faut pas oublier le très beau parcours d'Elior, hein, puisqu'on a un titre qui avait plus que doublé entre octobre et janvier. Donc aujourd'hui, ça souffle un petit peu, moins 13%, 3,34€. Et puis à l'inverse, ça se passe très bien pour Sartorius Stedim, qui est l'une des plus grosses capitalisations à Paris, quasiment 30 milliards de capitalisation boursière. On est dans le secteur médical, équipement, avec une normalisation de la croissance qui est prévue pour cette année, mais un groupe qui revoit quand même ses objectifs pour 2025. Et ça plaît au marché, plus 7%, un groupe qui arrive à maintenir une perspective de croissance malgré le fait que la pandémie est probablement derrière nous. Il faudra voir ce que ça demande dans les prochaines semaines, mais en tout cas ce discours optimiste de Sartorius Stedim plaît au marché. 326€ pour cette valeur aujourd'hui.
Étienne Braque depuis la tour Euronext. À tout à l'heure, Étienne, vous nous accompagnez bien sûr en direct. On vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35. On est toujours en hausse, assez confortable, hein. Le CAC 40 gagne 0,67%, faisant mieux d'ailleurs que le CAC, que l'Eurostock 50, grâce entre autres aussi au secteur du luxe qui progresse bien aujourd'hui. Et puis vous le disiez, Étienne, ST Microelectronics est en tête de l'indice CAC 40, plus de 6% de hausse après sa publication. On va tout de suite aussi parler des publications américaines. IBM, alors qui recule, moins 3,8. Tesla, au contraire, qui s'envole de quasiment 10%. On va en parler avec notre spécialiste des marchés américains, comme chaque jour, John Plassard.
BFM Business, BFM Bourse, USA Today.
que de publications. John Plassard avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau. Bonjour John, on est ravis de vous retrouver.
Bonjour Guillaume.
Alors il y en aura encore plus la semaine prochaine des publications, mais enfin voilà, on sent que ça accélère. On va en parler dans un instant parce qu'avant, on a quand même aussi de super indicateurs, en tout cas des indicateurs très intéressants à commenter aujourd'hui sur la dynamique de l'économie américaine. C'est impressionnant, hein, pas de vrai ralentissement. Oui, ça ralentit, mais beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. On n'a que des bonnes surprises aujourd'hui sur l'économie américaine, John.
Oui, tout à fait. Bonjour Guillaume. On a pas mal de bonnes surprises, mais il faut, vous savez, à chaque fois, on a l'impression qu'il y a des détails qu'il faut regarder derrière. Et là, il y a des détails, notamment dans la publication de la croissance aujourd'hui. Pfizer l'a déjà dit, 2,9. On attendait 2,6. C'est en légère décroissance par rapport à l'année passée. Mais évidemment, on attend une nette décroissance cette année. Alors, lorsqu'on regarde la composition de la croissance, eh bien, on voit que c'est les dépenses de consommation, vous l'avez dit, mais aussi les stocks privés et les dépenses du gouvernement fédéral. C'est-à-dire que le gouvernement fédéral est en train de reconstituer ses stocks et donc ça dynamise la croissance aux États-Unis. Après, on a les commandes de biens durables qui étaient nettement plus au plus haut, je dirais, de juillet 2020 à 5,6%. Mais si vous regardez bien à nouveau, Guillaume, les détails, eh bien, ça comprend la commande de 250 Boeing qui rentre dans cette composition. Donc, si vous retirez cette commande gigantesque qui a été faite, donc le corps dans les commandes de biens durables, eh bien, on est à moins 0,1%. Mmh. On est au plus bas depuis 2 ans. Donc, on regarde, vous savez, à chaque fois, il faut regarder le détail là-dessus, mais ça a l'air de plaire pour l'instant au marché. Et la dernière chose aussi, la statistique, il y en avait plein cet après-midi, la dernière statistique que j'ai notée, qui est très importante, eh bien, c'est les nouvelles demandes d'allocation chômage qui ont continué de baisser la semaine passée de moins 6 000 par rapport à la semaine précédente, on est au plus bas depuis avril. Donc on voit ici que les hausses de taux n'ont toujours pas d'effet sur l'emploi américain.
Donc des chiffres un poil plus contrastés qu'il n'y paraît en première instance. Wall Street qui les digère positivement, ces chiffres en effet, les indices sont plutôt bien orientés. Le Nasdaq gagne 0,9%, le S&P 500 gagne 0,4%. Alors on peut s'intéresser au Nasdaq parce qu'on a encore pas mal de publications dans la tech américaine. Aujourd'hui, IBM, on en parlera dans un instant, et puis Tesla. Tesla gagne quasiment 10% en ce moment, John. Alors que retenez-vous de la publication de Tesla et surtout du message qu'a voulu transmettre Tesla au marché ?
Bah écoutez, le message est assez bon et il a l'air assez franc, je dirais, puisque en termes de vente de véhicules, on attend une croissance qui est moins forte. La croissance était de 50% en termes de vente de véhicules d'année en année. Et là, elle sera plutôt vers les 40%. On savait qu'il allait avoir une baisse de la marge brute. Vous savez, ils avaient baissé le prix de certains modèles et on a une augmentation des bénéfices de 12%. Mais ce qu'il faut surtout relever ici, c'est que l'année 2022 a été une année totalement tumultueuse. Vous vous en souvenez, l'intensification de la concurrence, l'augmentation les perturbations, dans la chaîne d'approvisionnement et évidemment tous les frasques de Elon Musk avec notamment l'achat, le rachat de Twitter. Donc ici, ce qu'on regarde, eh bien, on regarde aussi les messages qui nous sont donnés, comme j'avais dit, un peu plus franc, et notamment sur la conservation du calendrier sur le fameux Cybertruck, le 4x4 de Tesla, qui devrait bientôt venir pour le public. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, ce message qui a l'air assez transparent, c'est difficile à dire, hein, mais ce message qui a l'air assez transparent de Tesla, eh bien, nous montre que l'année 2023, après une année 2022 très compliquée, ben, pourrait être une bonne année et potentiellement, on pourrait battre les estimations qui sont un peu revues à la baisse, on pourrait les battre lors des prochains trimestres.
Et ce titre Tesla en progression de plus de 9% aujourd'hui. Et désormais, John, on avance dans les publications, 20% du S&P a publié. On a d'autres annonces intéressantes aujourd'hui. Pour le coup, un titre qui fait grise mine, on en disait un mot, c'est IBM. Pourtant, les ventes d'IBM sur le dernier trimestre atteignent un niveau record, un rythme de hausse des ventes en tout cas qu'on n'avait plus vu depuis 10 ans. Mais ce titre IBM perd quasiment 4%.
Oui, et ce qui est assez étrange, et on l'a vu ensemble, alors c'est assez triste à dire, mais c'est que IBM a annoncé la suppression encore, vous savez, le secteur de la tech, qui continue à supprimer des emplois. Là, c'est 3900 emplois, donc c'est 1,5% de ses effectifs. L'entreprise a aussi donné des prévisions assez optimistes pour flux de trésorerie, mais l'entreprise se dit face à une situation de dégradation économique et n'a pas donné plus d'informations que ça. Donc, il y a un peu un flou qui rentre en compte ici et potentiellement une prise de bénéfices. Mais normalement, effectivement, on a vu ces derniers temps que dès que ces entreprises, et notamment les entreprises technologiques, annonçaient des licenciements, l'action remontait directement après. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'avenir est trop flou pour IBM.
Oui, et pareil pour SAP. Hein. SAP qui annonce aussi des licenciements, mais le titre recule. Le titre SAP en ce moment, oui, qui recule de 3%. Vous avez aussi repéré dans l'actualité, John, intéressant, Chevron. Chevron qui annonce, c'était hier en l'occurrence, un méga rachat d'actions et une augmentation de son dividende. Est-ce qu'on est, d'après vous, de retour dans les années 2000 lorsque l'or noir dominait le monde?
Mais d'une certaine manière, et ce que je dirais, c'est que c'est un camouflet pour le gouvernement Biden, parce qu'on se rappelle qu'en octobre 2022, donc c'est-à-dire il y a quelques mois de ça, le président Biden avait parlé aux grandes sociétés énergétiques et leur avait dit « N'utilisez pas vos bénéfices pour acheter des actions et pour augmenter vos dividendes ». Eh bien, vous savez, Guillaume, cette année, on devrait voir Chevron continuer à augmenter son dividende. Et ici, vous l'avez dit, 75 milliards de rachats d'actions, c'est énorme, un dividende qui monte de 6%, c'est absolument fou ce qui est en train de se passer. Et 2023 pourrait être la 36e année consécutive d'augmentation du dividende de Chevron. Donc ces entreprises énergétiques n'ont pas du tout suivi ce que leur a dit le gouvernement américain et surfent sur la vague, si je peux dire ça comme ça, sur la vague du pétrole qui est beaucoup plus cher.
Effectivement, ce titre Chevron en hausse encore aujourd'hui 3,3%. Les cours du pétrole qui repartent aussi d'ailleurs un peu à la hausse, quasiment 87 dollars le baril. On a fait le tour des news, vous avez repéré d'autres actus d'entreprises qui peuvent intéresser nos auditeurs et téléspectateurs et qui font partie des grands marqueurs de cette nouvelle séance américaine.
Écoutez, ce qu'on a, c'est qu'on a Northrop Grumman qui est dans la défense américaine, qui a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. On a vu que le secteur de la défense, ça n'étonnera personne, mais que le secteur de la défense est entouré, c'est-à-dire c'est positif pour le secteur de la défense. On a les jeans, vous savez, on avait parlé des jeans la semaine passée, Levi's, Guillaume, eh bien ils ont publié leur chiffre d'affaires, Levi's, et malgré l'inflation qui les impacte, eh bien le chiffre d'affaires est nettement en hausse et le bénéfice aussi. Et la dernière chose, c'est dans les communications, Comcast qui a publié un chiffre d'affaires qui a dépassé les attentes du marché. Donc c'est positif pour Comcast aussi.
John Plassard avec nous et Levi's, Levi's bien sûr pour les fans de cette marque de jeans. Merci beaucoup John de nous avoir accompagnés en direct depuis Mirabeau. Bon après-midi John. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,7%, 7097 points. Et tout à l'heure, il était à peu près 15h20 lorsque le CAC 40 a touché un nouveau plus haut de l'année. Alors un nouveau plus haut depuis le début de ce mois de janvier en réalité. Bon, on a touché les 7116 points. On est toujours dans ce rallye haussier qui semble vouloir se poursuivre. Et peut-être sera-t-il nourri de cet optimisme autour des publications d'entreprises. En tout cas, on a le sentiment que les bonnes surprises sont plus nombreuses autour des publications européennes pour l'instant qu'autour des publications américaines. On le dit avec beaucoup de prudence parce qu'en Europe, on n'est vraiment qu'au tout début et que l'essentiel du chemin reste à faire. Enfin, aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles du côté, par exemple, d'STMicroelectronics. Ce titre STM est en tête du CAC, plus 6,6%. Hors CAC, on a Sartorius Tedim, tiens, qui progresse de 7,6%. Et puis ce soir, on suivra bien sûr la publication après la clôture du marché parisien d'LVMH, publication qui devrait arriver entre 17h35 et 18h, si tel est le cas, bien sûr, on essaiera de vous en apporter une analyse en direct avec nos experts tout à l'heure.
BFM Business, BFM Bourse, thème d'investissement.
Et on va parler à présent des très petites valeurs, les micro-caps en réalité, les micro-caps internationales. Quel regard porter sur cette classe d'actifs? Franck Sabat vient de nous rejoindre pour Berenberg. Bonjour Franck.
Bonjour.
Bienvenue. On va parler donc de ces micro-caps. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut définir peut-être les contours et les frontières des micro-caps. C'est quoi une micro-cap?
Alors une micro-cap, c'est une société listée. Donc c'est une société qui a déjà fait bien avancer, je dirais, dans son activité. Nous, la façon dont on le définit, ça va être des sociétés avec une capitalisation entre 100 millions et 1 milliard. C'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et il y en a énormément, en fait. Là, on parle dans ce range-là de 15 000 sociétés à travers le monde. Donc, c'est un univers qui est très, très large et avec beaucoup de diversité.
Bon. Et en termes de, d'idées d'investissement, de timing aussi, ça compte énormément, le timing. Vous estimez qu'il est encore temps, que c'est peut-être même plus qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, le moment de choisir d'investir dans les microcaps, d'en ajouter pour diversifier son portefeuille?
Alors, je suis biaisé, mais sur le fond, je dirais que les microcaps, il faudrait en détenir un peu de façon structurelle. Pourquoi? Parce que c'est des sociétés où, en gros, l'idée, si on arrive à identifier une société qui fait 200 millions, et qu'on l'accompagne jusqu'à ce qu'elle fasse 1 milliard, donc on parle d'un fois 5 ou peut-être plus si on continue à l'accompagner, le market timing, il est quasiment impossible. Donc le but, en tout cas la façon dont on le fait, et la façon dont on l'envisage, c'est plutôt d'être en mesure d'identifier très tôt ces sociétés dans ce champ d'opportunités qui est immense, et donc où il y a aussi du bon et du moins bon, et les accompagner. Ça veut dire qu'on accepte aussi qu'on ait des périodes comme l'année dernière, où effectivement ça a baissé, mais ça fait partie du cycle et ça fait partie de la stratégie.
Et depuis le début de l'année, alors qu'on voit que les marchés actions, notamment européens en l'occurrence, cartonnent, c'est impressionnant. Est-ce que les microcaps suivent?
Les microcaps suivent avec de manière générale, elles vivent un petit peu leur vie, parce que c'est spécial, c'est moins liquide, c'est souvent encore détenu par les fondateurs. Donc elles suivent avec un petit lag. Si on regarde de nouveau. Si on va un peu plus loin, si on regarde sur des horizons 3-5 ans, c'est des sociétés qui ont créé beaucoup de valeur, que ce soit en Europe ou hors Europe.
Alors, hors Europe, justement, vous proposez en l'occurrence, et pour aller encore un peu plus précisément dans vos solutions d'investissement, d'investir dans les microcaps à l'international, c'est-à-dire hors de France et souvent aussi hors d'Europe. Pourquoi hors d'Europe? Est-ce que c'est mieux hors d'Europe? Enfin, pourquoi proposer spécifiquement une solution d'investissement hors d'Europe?
Alors, pourquoi? Déjà parce qu'on le faisait en Europe. On le faisait en Europe depuis 5 ans et que c'est des stratégies qui ont des capacités limitées. Donc, on avait clôturé cette stratégie pour rester très pur. Et en fait, on s'est rendu compte, avec beaucoup de travail, beaucoup d'analyses, qu'on pouvait offrir, on pouvait identifier ce même type de société hors Europe. Il faut être précis, on ne va pas aller partout. Le champ serait beaucoup trop large, on n'aurait pas la qualité d'information dont on a besoin. Donc au final, ce qui va être le hors Europe, ça va être les États-Unis, le Canada, le Japon et quelques pays développés où on sait qu'il y a ce vivier d'entrepreneurs, donc la Corée du Sud, Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, quelques autres. Donc ça va être ça le hors Europe dans notre idée.
Alors, est-ce qu'on peut illustrer les choses pour nos auditeurs et téléspectateurs qui, en plus, aiment bien découvrir de nouvelles sociétés auxquelles on est peu habitué? Là, on est à l'international et en plus dans l'univers des microcaps. Est-ce qu'on peut illustrer vos convictions à travers une première valeur que vous détenez en portefeuille et dans laquelle vous croyez?
Oui, avec plaisir. C'est peut-être le plus représentatif. Oui. On va aller aux États-Unis, qui est un gros bloc. Ça représente un tiers de l'indice de référence. Et aux États-Unis, c'est une société qui est à New York, qui s'appelle NAPCO. Eux, ils sont dans la sécurité. Ça fait 40 ans qu'ils font de la sécurité. Au départ, c'était des systèmes d'alarme. Et aujourd'hui, en fait, ils ont développé tout un module qui permet d'être de la connectivité. Et en fait, ils ont différents champs d'activité. Si on se concentre sur un, qui est peut-être le plus représentatif, aux États-Unis, dans les universités, on sait qu'il y a un problème de sécurité qui est majeur dans les écoles, les universités. Ils ont développé, NAPCO a développé au fil des années, une technologie qui permet, en fait, je dirais, en appuyant sur un bouton, de protéger l'ensemble du bâtiment. Donc de loquer les portes, de loquer les bâtiments, de loquer les fenêtres. Pourquoi on a intégré cette société? Parce qu'ils apportent une solution sur un besoin critique, parce que c'est un marché où il y a énormément d'investissements. Il y a la moitié des États aux États-Unis qui ont investi 1 milliard sur ces sujets, donc on a un vrai besoin. Et parce que c'est un marché qui est assez fragmenté au final. Il n'y a pas un leader majeur. Eux, ils ont réussi à trouver ce positionnement très niche parce qu'ils ont continuer à investir et à innover. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les microcaps. On est sur les fondamentaux de l'économie. Ce côté innovation, sur des marchés très niches.
Et ils ont des technologies qui, étant pure player, leur offrent une forme d'avance par rapport à peut-être d'autres sociétés. Vous le disiez, c'est un marché de la sécurisation des universités, des écoles, etc., dans cette société américaine violente. C'est un marché, hélas, porteur. Oui. Ils ont une vraie valeur ajoutée par rapport à la multitude de concurrents qu'ils doivent affronter.
Ils ont une valeur ajoutée, ils ont quelques valeurs ajoutées même. La principale, je dirais, c'est ce côté connectivité. Où en gros, cette technologie qu'on va installer permet de relier aussi bien aux pompiers potentiellement qu'à la police, qu'aux différents systèmes de protection. Et ils ont aussi un avantage non négligeable, c'est que leur production est entièrement en République dominicaine. Donc ils ont quelque chose... Ils n'ont pas eu les problèmes que pouvaient avoir d'autres sur le côté supply chain, qui était le sujet critique des, on va dire, 24 derniers mois au moins.
Mmh. NAPCO, N-A-P-C-O, c'est de la diversification de portefeuille. Une première idée, $30.23 en ce moment, cette valeur. Une autre idée ?
Beaucoup d'autres idées, on en a environ une centaine, mais si on en prend une autre de concrète, on voyage un petit peu, on est en Corée du Sud, donc c'est un de ces pays sur lesquels on sait qu'il y a des opportunités parce qu'il y a un marché qui est large. Et on est dans les semi-conducteurs. Donc les semi-conducteurs, je vous apprends rien, hein, c'est un marché qui fait 600 milliards. On attend à ce qu'il atteigne les 900 milliards d'ici 5 ans. Et en gros, ces puces, hein, on est sur de la puce électronique, c'est de plus en plus petit. On est dans du nano-millimètre. On a besoin de les tester. C'est aussi simple que ça. Les producteurs ont besoin de tester les puces. Et du coup, la société qui s'appelle Park System, eux, ils ont développé un microscope. Donc, on est sur quelque chose qui est assez connu, hein,
ah oui.
Concrètement. Donc, on avait les microscopes qu'on a tous connus à l'école, le microscope où on regardait. Aujourd'hui, la majorité des tests se font avec des microscopes électroniques. Et en gros, Park System, qui a été fondé par le docteur Park, qui avait développé ça à Stanford pendant son université, il y a 40 ans, eux, ils ont développé ce qu'on appelle les Atomic Force Microscopes, ce qui aurait fait une très bonne marque de basket, mais qui est une nouvelle technologie de microscope, et qui permet juste d'avoir une meilleure analyse, en fait. C'est aussi simple que ça, c'est un laser qui va permettre d'aller sur ces puces qui deviennent de plus en plus petites et de dire si la puce fonctionne oui ou non. Ils ont une technologie qui est différenciante. Il y a un cycle de rénovation qui est naturel et donc on va chercher la meilleure technologie. Ce qui leur permet quoi ? Ce qui leur permet d'avoir un pricing power qui est assez, voire très fort. Ce qui leur permet aussi d'être sur ce marché en croissance avec un producteur de semi-conducteurs, il va être prêt à payer ce premium pour avoir une meilleure qualité de test et donc une meilleure qualité de puce.
Oui. Et renforcer sa propre barrière à l'entrée vis-à-vis des concurrents.
Exactement.
Park System, c'est le nom de cette société.
Exactement.
Ok, on est coté donc à Séoul.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc prudence sur les effets de change, attention, il faut aussi en tenir compte. Voilà.
Ouais, ça fait. Alors l'effet de change, je dirais, c'est quelque chose. Alors vous savez que moi, c'est assez sensible, hein. J'ai fait ça pendant 15 ans chez Rothschild, donc ça me parle.
C'est pour ça que vous osez investir dans les microcaps internationales.
Oui, et l'idée, c'est de diversifier. Là, on le voit, nous, dans la stratégie, c'était. En gros, c'est un tiers US, un tiers Japon, donc Yen, et quelques autres devises. L'année dernière, l'impact, le dollar a très bien performé, le yen beaucoup moins bien. Donc c'est quelque chose qu'on accepte, surtout sur des cycles d'investissement de 3, 5, 10 ans. Ce qu'on veut, c'est accompagner la société.
Park System, donc, vous détenez dans vos portefeuilles, et NAPCO, que vous êtes venu aujourd'hui décrire pour nos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, on aura découvert deux titres supplémentaires aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé nous voir.
Merci.
Franck Sabat, bon retour. Berenberg, régulièrement à nos côtés. Franck, à bientôt. Merci. Dans un instant, on va rejoindre Jean-Louis Cussac pour mesurer le pouls, prendre le pouls des marchés. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,8%, toujours proche des 7100 points qu'on a tout à l'heure refranchi à la hausse. On est actuellement à 7098. Wall Street aussi progresse bien. Jean-Louis, dans un instant, et puis juste après, nos experts crypto, notre club BFM Crypto. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
À vos côtés pour encore quasiment une heure et demie, Jean-Louis Cussac tient nous rejoint depuis Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, on est ravis de vous retrouver au cœur de BFM Bourse. Le CAC 40, Jean-Louis, a touché tout à l'heure un nouveau plus haut annuel, bon, un plus haut du mois de janvier. Hein. Voilà, on était à 7116 points aux alentours de 15h20, plus haut niveau au cœur de ce rallye entamé fin septembre dernier. On sent que ce rallye veut pour l'instant tenir et on gagne donc en ce moment encore 0,8% sur l'indice CAC. Jusqu'où la hausse d'après vous, Jean-Louis ?
Pourquoi pas sur les derniers plus hauts précédents. Il y a pas de raison pour l'instant que ça ne s'arrête. Moi, j'attends toujours un retracement. Il n'y a pas le signal que le marché va retracer. Toutes les indications techniques sont encore haussières. Là, je viens d'acheter justement sur 7095 à 96,5 exactement. Sur un retracement de 0,4%, c'est vraiment un classique de ce qu'on peut espérer dans un marché qui reste verrouillé à la hausse par rapport à ce qu'on a vu depuis ce matin où il y avait très peu de volatilité dans la journée. Un marché vraiment très atone d'ailleurs, hein, avec un peu de volume tout de même, des bons résultats de société, meilleurs qu'aux États-Unis. Et donc, si vous voulez, c'était l'occasion. Et là, ça rebondit un petit peu. Et dans ce repli, c'est Total qui a baissé le plus. Pendant 2 heures, elle a perdu 1,4% à peu près, et Sanofi. Les deux grosses pondérations, il y en a d'autres qui ont baissé, mais ce sont les deux grosses pondérations qui ont reculé à ce moment-là, rien d'extraordinaire. Et on reste toujours, si vous voulez, dans une dynamique. Alors, le dynamique, c'est pas le mot fortement, enfin, approprié, mais on reste dans une dynamique haussière, oui, voilà, avec pas mal quand même d'hésitation. Les catalyseurs sont pas toujours évidents, ça tient à pas grand chose. Bon, ben on se renforce dans l'idée d'un atterrissage en douceur de l'économie US, qu'il y aura pas de récession, peut-être pas beaucoup non plus en Europe, que tout va se passer pour le mieux. On garde, c'est vrai, une vision extrêmement optimiste. On a toujours les mêmes considérations techniques avec de construction, avec une volatilité implicite toujours au-dessus de 14 quand même, alors que le marché a beaucoup, beaucoup progressé. On pourrait se retrouver peut-être à 12, à 11. Non, non, on est quand même à 14,4. Donc, vous voyez, c'est, il n'y a pas d'hyper-méfiance, de complaisance. Il y a toujours de la méfiance. Les bancaires sont bien orientés. Mais voilà, moi j'attends toujours le retracement. Bon, on n'est pas allé beaucoup plus haut que ce qu'on avait fait la semaine d'avant. On reste quand même sur 6 jours, sur 6-7 jours, sur des tops qui sont à peu près identiques. Mais encore une fois, je vais considérer que, si vous voulez, que le signal du retracement sera donné si on casse 6950. Et à ce moment-là, on pourra espérer peut-être aller chercher 6008. Et si vraiment il y a une dégradation de la situation, un petit peu comme celle qu'on avait connue quand nous sommes allés vers 6400, et on l'attendait, hein, beaucoup l'attendaient pour acheter, et bien là, ça pourrait nous ramener vers 6650, mais pour l'instant, je vous répète, il n'y a pas le signal que l'on puisse retracer.
Merci Jean-Louis. Jean-Louis Cussac et ses indicateurs, ce que les marchés d'un point de vue technique ont dans le ventre pour la suite. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, régulièrement à nos côtés, chaque matin bien sûr, aux côtés de Cédric Decoeur dans BFM Patrimoine à 10h30 pétante. Le CAC 40 est en hausse, on le disait, pile 7100 points. Wall Street aussi qui progresse. Aujourd'hui, après des indicateurs, c'est vrai, meilleurs qu'attendus, le PIB américain du quatrième trimestre, supérieur aux attentes. Les commandes de biens durables, supérieures aux attentes aussi. Alors grâce notamment aux stocks publics américains qui ont beaucoup porté ce chiffre des commandes de biens durables, mais quand même, le chiffre est 2 fois supérieur aux attentes. Et puis, sur le front de l'emploi, le marché de l'emploi reste toujours aussi dynamique. On a une nouvelle baisse du nombre de nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis qui recule contre toute attente sur un plus bas même d'avril dernier. 186 000 seulement, c'est le nombre de nouveaux inscrits au chômage malgré les resserrements monétaires. Alors tout à l'heure, on était avec un certain nombre d'experts qui nous expliquaient que le chômage américain et surtout le marché de l'emploi devraient véritablement commencer à ralentir aux États-Unis peut-être à partir de l'été. Bon, ça fait un moment qu'on dit que ce sera à partir de dans 3-4 mois, puis à chaque fois c'est repoussé, on verra si tout cela finit par se matérialiser. En tout cas, aujourd'hui, ce qui se matérialise, c'est une remontée des taux obligataires quand même, puisque le 10 ans américain remonte à tout petit peu à 3,47, et ce qui est alertant, interpellant en tout cas, c'est que malgré cette remontée des taux obligataires, les indices actions ne souffrent pas, au contraire, eux aussi progressent. Même le Nasdaq, plus 0,9% en ce moment le Nasdaq, après quelques publications jugées encourageantes, celle de Tesla. Tesla gagne 10%. Et puis de son côté, IBM nous annonce la plus forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel en 10 ans. Ouais, en 10 ans. Et pour le coup, les prévisions en revanche pour la suite sont jugées trop floues. Et pour le coup, donc IBM recule moins
0,4%. Voilà l'état des lieux à 16h38 sur les marchés. Si vous avez des questions sur vos portefeuilles, vous pouvez bien sûr nous les envoyer. Tout à l'heure, après 18h, vous savez ce qui vous attend. Amaury de Tonquédex sera avec vous sur nos réseaux sociaux. Bonjour Amaury.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Rendez-vous quotidien du lundi au jeudi.
Oui, c'est ça. Et à 18h, rendez-vous avec Aymeric Lang, gérant chez Erasmus Gestion. Et si vous voulez investir en 2023 dans la décarbonation, rendez-vous à 18h, il vous dira tout. Et bien sûr, on répond comme d'habitude à vos questions, notamment comment... On a une question de Jean-Claude. Jusqu'où peut monter Alstom? Aussi André qui nous demande, est-il encore judicieux d'investir sur SES ImagoTag ou Robertet? Et on finira avec Jean-Christophe. Quels sont vos avis à propos de l'action SPI qu'il détient, lui, depuis 2017? Donc on répond à toutes vos questions. Vous nous les posez en scannant ce QR code ou alors en nous écrivant à bfmbourse@bfmbusiness.fr.
Et chaque soir après 18h, grâce à vous et votre expert sur nos réseaux, les questions de nos auditeurs trouvent toujours une réponse. À tout à l'heure, Amaury, n'hésitez pas donc à nous envoyer vos questions. Tout de suite, place au crypto, notre club BFM Crypto, comme chaque après-midi.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Ils sont là, ils viennent de nous rejoindre, nos experts crypto, alors que le Bitcoin tient toujours bon. Hein, on est toujours sur le Bitcoin, au-dessus des 20 000 dollars, même largement au-dessus, puisqu'on est à plus de 23 000, même à l'instant, 23 041 dollars. Ils ont le sourire. Grégory Raymond, bonjour Grégory.
Salut Guillaume.
Rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Et puis Louis de Froissart aussi nous accompagne. Bonjour Louis.
Oui, bonjour Guillaume.
Montaigne Conseil et Patrimoine. Un conseiller en gestion de patrimoine, Louis de Froissart. Un CGP, si vous avez trop d'argent, Louis est là, vous pouvez le lui confier. Un CGP pionnier, puisque vous êtes dans la crypto, Louis, depuis maintenant plusieurs années, vous proposez en tant que CGP des solutions crypto, ça fait de vous un pionnier. On voit votre moustache d'ailleurs très gauloise. Vous êtes tombé dans les cryptos quand vous étiez adulte.
Oui, déjà grand.
Ouais. Vous nous expliquerez tout dans un instant et vous nous livrerez votre vision des cryptos en tant que CGP. Pourquoi, à vos yeux d'ailleurs, les CGP devraient aussi s'y intéresser de plus en plus. D'abord, Grégory, vous avez publié un article cette semaine dans The Big Whale. Article dans... Il n'y en a pas qu'un, il y en a eu plusieurs. Mais dans un de vos articles, vous soulignez les succès de Polygon auprès des grandes entreprises. Meta, Starbucks, Walmart ou encore Nike, tout travaille avec cette blockchain Polygon. Comment expliquez-vous ce succès?
En fait, c'est très simple. C'est pas cher de l'utiliser. Elle est très rapide. On a beaucoup suivi les problèmes d'Ethereum hein, sur les deux dernières années. Vous savez, pour faire une transaction sur Ethereum, ça peut parfois coûter l'équivalent de 50 dollars. Ça peut prendre parfois une heure, deux heures, voire plus, si on met pas assez de frais. Donc, il y a ces problèmes-là. Mais ça restait la blockchain la plus pertinente pour les entreprises. Donc, en fait, il a fallu trouver une solution intermédiaire. Et donc, c'est là que Polygon est arrivé. Parce que Polygon est bâti sur l'écosystème Ethereum, c'est-à-dire que toutes les transactions qui passent sur ce réseau-là finissent par être intégrées dans Ethereum. Donc on a la rapidité, la vélocité et la sécurité d'Ethereum. Et on voit arriver donc plutôt des projets NFT. Celui que j'ai envie de retenir, c'est vraiment celui de Meta, donc ex-Facebook. Sur Instagram, c'est encore en test là, mais bientôt on va pouvoir tous créer des NFT et ça sera sur la blockchain Polygon. Donc on peut vraiment dire que c'est la blockchain des entreprises aujourd'hui.
La vélocité d'Ethereum, les qualités d'Ethereum sans le prix, c'est ça, ça coûte moins cher qu'Ethereum.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. Et voilà, tout ce qu'il faut dire, c'est que c'est très proche d'Ethereum et surtout, en fait, ils ont évité la grande bataille qu'il y avait avec Ethereum. Vous savez, on a parlé de Solana, Avalanche, tous ces projets-là qui étaient un peu en confrontation avec Ethereum. Et là, disons qu'ils s'inscrivent vraiment dans cet écosystème. Donc, c'est un choix plutôt intelligent parce que c'est pas un concurrent, c'est un complément.
Oh, que c'est joli. Et c'est ce que vous expliquez aussi dans cet article paru dans The Big Whale. Beaucoup de conseillers de Polygon sont extrêmement suivi et respecté dans l'écosystème Ethereum.
Oui, et ça joue beaucoup. Parce que toutes ces rivalités, toutes ces guerres de chapelle, finalement, elles inondent un peu le débat. Et là, disons qu'il y a eu un choix très politique d'attirer dans leur filet des grandes personnalités d'Ethereum pour en fait faire la publicité de Polygon. Et on peut dire que ça a vraiment marché.
Oui. Est-ce qu'on peut zoomer justement sur, puisqu'on parle de Polygon, le talent de leurs équipes de business développement, parce que c'est quand même manifestement la clé aussi de leur ascension?
Oui, parce qu'au-delà de la technologie qui est intéressante, ce que tout le monde dit, ce que tous les experts disent, c'est que leur équipe BizDev, donc le développement commercial, c'est là où ils sont les meilleurs. Et pourquoi ils sont les meilleurs? Ben, en fait, ils ont recruté des pointures du monde traditionnel, du monde Web 2. La personne qui incarne le plus ça, c'est Ryan Watts, qui est en fait l'ancien Head of Gaming de YouTube. Et c'est, en fait, c'est une des plus grosses prises hein, de l'écosystème Web3, je trouve, avec Ian Rogers, qui est un ancien d'LVMH et d'Apple, qui a rejoint Ledger il y a à peu près un an et demi. Voilà, là, il y a Ryan Watts. Et donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que quand Ryan Watts parle avec Nike, avec Meta, avec tout ce genre d'entreprise, ben, en fait, ils parlent le même langage. Donc, c'est plus simple pour faire des affaires.
Louis, le CGP, quel regard portez-vous sur Polygon?
En fait, Polygon, c'est vraiment très intéressant. Après, moi, j'ai une expérience avec Polygon. On a beaucoup utilisé lors de la formation à l'IRA Polygon, bah, justement pour son faible coût. Et on a été confronté à une problématique de scalabilité que pas grand monde a vu à ce moment-là. C'était en février 2022. Il y avait un jeu qui était hyper présent sur Polygon. Et là, on a eu des contraintes. C'est-à-dire qu'on a vu les prix de transaction qui ont été multipliés par 100. Donc, en fait, il faut pas oublier qu'il y a toujours ces problématiques de scalabilité qu'il faut bien traiter quand on est un jeune écosystème. Et effectivement, Polygon, nous, on le suit depuis. Le jeton a très peu baissé, en fait. Il est quasiment au même prix qu'il y a un an. Ça, c'est assez surprenant.
Wow.
Ouais. Globalement, un dollar. Hein. On est à peu près.
Alors que les cours de l'écosystème se sont cassés la figure.
Ouais. Mais quand même divisé par 3 à peu près depuis son top. Hein.
Donc, depuis son top.
Ils ont quand même pris cher. Hein.
Mais on en connaît beaucoup qui ont biffé bien pire.
Oui.
Et en fait, voilà, il faut bien faire prendre conscience aussi qu'il y a des problématiques de scalabilité peuvent arriver et c'est un vrai sujet. On peut avoir des business hyper performants et il faut derrière que la tech suive. C'est-à-dire, si la tech ne suit pas.
Ouais. Il y a un souci, il y a un risque sur la scalabilité autour de Polygon qui pourrait du coup mettre à mal cette promesse d'un service moins cher qu'Ethereum.
Alors pour l'instant, ils font 3 à 4 fois plus de transactions que sur Ethereum. Ils peuvent monter beaucoup plus haut. En fait, c'est que là, il n'y a pas encore les besoins pour qu'on aille plus haut. Mais théoriquement, ils disent que Polygon pourrait traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Bon, il faut se méfier de ces titres, enfin de ces chiffres mirobolants. Toutes les blockchains font un peu pareil. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est la solution alternative qui permet d'exploiter le mieux, en tout cas Ethereum, je pense. Hein.
Oui, bien sûr. Et on l'utilise en DeFi.
Mais ce n'est pas la seule, hein, quand même.
Est-ce que, est-ce que Polygon a quand même des concurrents?
Et oui, ça serait très imprudent qu'ils se reposent sur leur laurier. Je pense que c'est la solution la plus mature aujourd'hui pour offrir de la scalabilité à Ethereum. Et il y a ce qu'on appelle les ZK Rollup, les Optimistic Rollup, qui
mais
en gros...
Quoi? Les roll-up.
On va essayer de simplifier ça. En fait, ce sont des nouveaux systèmes qui, en fait, s'appuient totalement sur la sécurité d'Ethereum, qui sont au sein d'Ethereum et qui n'ont pas besoin d'une blockchain à part, donc une sidechain comme Polygon. Donc ça, c'est ZK roll-up. Enfin, donc c'est roll-up. C'est censé être l'avenir. C'est censé être ce qui va vraiment booster la scalabilité d'Ethereum, qui va être adopté par tout le monde. Mais c'est encore très compliqué. Il y a encore beaucoup de recherches à faire. Donc pour l'instant, c'est Polygon qui a le lead. Mais parmi les boîtes qui sont spécialisées sur les roll-up, je pense qu'on peut retenir Starkware, qui est une start-up israélienne, qui est en train de développer un réseau qui s'appelle Starknet. C'est la solution qui a été choisie par Sorar, par exemple, pour que l'échange des cartes, tu vois, se fasse très vite, sans trop de frais. Donc ça marche très bien. Là, ils veulent en faire un grand réseau décentralisé. C'est clairement l'un des projets à suivre, Starknet, en 2023. Et on verra si Polygon ne prend pas de retard par rapport à cette innovation. Mais il faut se méfier. C'est pas souvent la meilleure technologie qui gagne. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent le mieux à vendre leurs produits.
Et là-dessus, Polygon est très fort.
Et là-dessus, Polygon a vraiment des armes.
Vous disiez Starknet, c'est israélien, c'est ça?
C'est le réseau Starknet développé par la start-up Starkware qui est israélienne.
Et Polygon, c'est...
Polygon, ça a été inventé par des ingénieurs indiens.
D'accord.
Mais il y a énormément de capitaux qui sont venus des États-Unis, le capital risque traditionnel, et donc ils ont recruté beaucoup de dirigeants américains aujourd'hui.
Et donc Louis de Froissart à nos côtés, Montaigne, Conseil et Patrimoine. On a une montagne de questions en l'occurrence à vous poser. Vous, le CGP Christophile, quoi de neuf Christophile, mon Dieu, Cryptophile.
Les deux.
Voilà, bravo. Quel rebond. Quoi de neuf sur le marché des cryptos pour les conseils en gestion de patrimoine?
Alors, on a vu fleurir à l'automne plein de propositions de services pour les CGP. Ça y est, maintenant, elles sont implémentées. Il y avait un salon là, il y a 15 jours et 20% des exposants proposaient des services crypto. Donc ça, c'est un point qui est assez important. En ce moment, on pense que la réglementation sur les PSAN va aller dans un sens accommodant. moins contraignant, ce qui fait qu'on a une continuité de service. Donc, deuxième bonne nouvelle.
C'est ce qui ressort du vote du Parlement avant-hier.
Voilà,
à
et ce qui est des bruits de couloir de l'Assemblée. Et ensuite, n'oublions pas la commission mixte paritaire. Et ensuite, il y a Bitcoin qui n'est pas mort, hein, parce que, enfin, on a quand même une belle correction à la hausse sur Bitcoin et les autres cryptos. Et enfin, aussi un autre signal faible capté cette semaine, les notaires. Je peux annoncer que des notaires ont enfin investi dans une solution de sécurisation, de transmission des données numériques, y compris des cryptos. J'ai rencontré d'ailleurs Maître Texier, Gwendal Texier à Rennes mardi, qui m'a expliqué comment NotIT, le fonds de dotation, a investi dans cette solution.
Alors si même les notaires s'y mettent, oui. Enfin franchement... Louis, je suis conseiller en gestion de patrimoine et je vous écoute aujourd'hui en direct sur BFM Business. Il y a encore du boulot. En plus, il y a eu la chute vertigineuse en 2022 des cryptos. Allez, speed dating, là. Convainquez-moi qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, si je m'occupe pas, si je m'intéresse pas aux cryptos, je vais vraiment passer à côté de quelque chose. Il faut que vous me convainquiez, là.
Oui. Alors, il y a plusieurs éléments. Dans la question. D'abord, on voit encore des comportements qui sont dans le déni total et on le voit tout de suite dans les questions qui sont posées. Ce sont des questions qui sont posées sur une absence totale de connaissances. Il vaut mieux, dans une conférence où il y a des gens qui s'intéressent à la crypto, éviter d'avoir ce genre de comportement. Ça ridiculise la profession. Ensuite, le deuxième point, c'est que le petit effort à faire, c'est de comprendre ce que l'on vend. Et les clients ont de plus en plus d'appétence à s'intéresser à la crypto. Nous, on a des confrères qui nous disent... Louis, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Parce que nos clients nous posent la question. Et on est démunis par rapport à ça. Par contre... S'ils veulent eux-mêmes proposer des solutions, il faut qu'ils aient un minimum de formation pour comprendre ce qu'ils vont proposer. Et là, il y a un risque important de dire « je propose l'offre qui vient de m'être présentée » sans savoir exactement comment, par exemple, la performance est délivrée. Voilà. Donc aujourd'hui, la demande, elle vient des clients. Et un client qui me dit, un client qui dit à un CGP qui n'est pas capable de répondre à la question, moi j'aimerais bien intégrer la crypto à mon patrimoine, il risque de perdre ce client. Oui. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui c'est faible. Mais si le marché reprend, vous allez voir, hein, là ça va être un raz-de-marée. C'est-à-dire tout le monde en voudra. Et puis il y aura la tokenisation qui, elle, est non. un. Tsunami.
On va en parler de la tokenisation, mais c'est vrai que malgré l'hiver crypto et la chute des cours l'an dernier, le nombre de détenteurs de crypto a continué de croître dans le monde. Et puis, il y a un effet de génération aussi pour les conseillers en gestion de patrimoine. Bon, la clientèle la plus fortunée, ceux qui ont le plus d'argent, souvent ont plus de 40, 50 et même plus, certes. Mais les jeunes vont venir à un moment. C'est le futur de leur clientèle. Et ceux-là sont déjà un peu habitués à l'investissement en crypto.
On a toute une vague de primo-cédants. De gens qui viennent de céder leur première boîte. Ils ont été assez astucieux parce qu'ils ont compris que c'était le moment de vendre. Et donc, on a toute une gamme de primo-cédants qui sont quasiment tous demandeurs. Dire « Ah, mais en plus, toi aussi, tu fais de la crypto. Donc, c'est bon, je vais te choisir parce que tu sais faire le reste. Et en plus, tu fais ça. » Et justement, j'avais fait un peu... Voilà, j'avais acheté deux, trois trucs. Là, j'ai pas de stratégie, tout ça. Et je sais pas trop. Donc... Ça, pour nous, ça a été même un critère de sélection, voire d'élection par rapport à ces gens-là. Il ne faut pas oublier que chez Montaigne Conseil et Patrimoine, on a des gens dans chaque décil. On a des gens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et bientôt 60. Pas pour moi, hein, pour quelqu'un d'autre de l'équipe. Donc, ce qui fait qu'on est capable d'adresser, de parler la même langue que tous les gens qui viennent nous voir, qu'ils aient 20 ans à 60 ans.
Mais ceux qui s'intéressent aux cryptos dans ces clients croissants des conseillers en gestion de patrimoine, ils en veulent un tout petit peu, on imagine. C'est juste pour voir. Enfin voilà, c'est juste pour tester, tenter, être un peu, être dedans, y mettre un doigt, pas le bras entier, on imagine.
Ça dépend, parce qu'on a des clients qui nous ont dit, on a entendu parler de Ether, on pouvait passer maintenant à, on pouvait éviter le minage et on pouvait passer à de la validation et avoir un revenu, donc être acteur d'un écosystème. On leur a dit, c'est quand même 32 Ether. Il y en a plusieurs qui ont dit banco.
Oui, 32 Ether.
Par Bitcoin et Ether, vous proposez de l'investissement dans d'autres cryptos?
Oui, bien sûr. Alors, on propose l'investissement dans quelques cryptos d'infrastructure. On a cité Matic tout à l'heure.
Donc, Polygon Matic.
Ouais, ça, c'est sûr, Polygon Matic.
Pourquoi ça a deux noms? Non, mais franchement, c'est tellement. Alors, c'est déjà assez complexe comme ça.
Et puis, il y a l'ancien nom avant, c'était Matic. Ils l'ont renommé Polygon, mais le token, c'est bon. Matic.
Voilà. Mais, et après, on va aussi sur des thématiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, moi, j'aimerais bien être un peu dans le gaming, d'autres un peu dans le méta, dans le métavers. Et aussi, on a commencé à intégrer dès cette année la détention d'or par token.
Ah.
D'où la tokenisation, parce que ça, c'est le début du tsunami.
Oui, mais d'accord, mais donc l'or a encore un avenir. On dit toujours le bitcoin, c'est l'avenir de l'or. Non, l'or a son avenir, puisqu'on va le tokeniser.
On n'a jamais opposé, chez nous, l'or et bitcoin. On a toujours dit que c'était des choses qui étaient complémentaires. À titre personnel, j'ai du Bitcoin et j'ai quelques Napoléons.
Ah, même des Napoléons. Ah, c'est bien.
Oui, c'est ce qu'il y a de plus liquide.
Ah oui, d'accord. Bon, et la tokenisation, pour vous, c'est vraiment un sujet. Vous disiez tout à l'heure, la tokenisation sera un tsunami.
Oui. Tout va être tokenisé. C'est-à-dire que.
On va tout découper en rondelles.
Oui. On va tout découper en rondelles, et je ne suis pas le seul à le dire. Aujourd'hui, JP Morgan s'y intéresse de près. Et on a un exemple très parlant. Bon, on a eu Paxos Gold qui fait l'once d'or, VeraOne en France qui fait le gramme d'or, mais on a eu un exemple avec Realty, qui est une plateforme canadienne qui propose de l'immobilier tokenisé. Ils achètent un immeuble, c'est une société qui achète un immeuble, et ils tokenisent l'action. C'est-à-dire qu'une action vaut $50, et donc s'il y a un immeuble qui vaut 50 000 euros, ben, j'ai 1000 actions, s'il vaut 500 000 euros, j'en ai 10 000, et je peux en acheter une, et j'ai un loyer hebdomadaire. Donc ça, c'est permis par la blockchain, parce que c'est très peu cher. Je peux faire des transactions quasiment gratuites. Ensuite, je peux ce jeton, cette propriété, la mettre en collatéral pour pouvoir récupérer du cash à hauteur de 60% de mon collatéral et racheter un autre morceau. Alors bien sûr, si je mets $50, je vais avoir 30 et je ne peux pas acheter un autre token. Donc imaginons que j'ai 500, je peux récupérer 300 et je peux à ce moment-là racheter. Et donc je peux tokeniser, je peux faire
effet de levier
2-3 fois et j'ai 75% d'exposition en plus. J'ai la possibilité d'avoir des problématiques d'assurance, je peux m'assurer ou assurer les locataires. Donc il y a tout un système décentralisé qui est en train de se mettre en place autour de ça. Mais ce qu'il faut retenir de Realty, c'est pas le sous-jacent. C'est pas est-ce qu'aujourd'hui il faut investir dans l'immobilier classé à Détroit ou ailleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est l'industrie qui est en train de se mettre en place. Si je sais tokeniser une part de société, aujourd'hui d'une société américaine, je saurais tokeniser n'importe quelle part de société ailleurs dans le monde. Voilà.
C'est une forme. L'équivalence sont les SCPI, pardon, hein, mais j'essaie de comprendre la tokenisation. On découpe des biens en rondelles et par la blockchain, on en a chacun un petit morceau, ce qui permet d'y accéder à prix peut-être plus bas. On en a, on peut en avoir qu'un morceau.
C'est ça, hein.
Voilà, donc on fluidifie le marché et on fait baisser le ticket d'entrée dans le marché de l'immobilier. Mais pour ça, il y a déjà des SCPI, par exemple, en France.
Et on désintermédie.
Oui.
Donc qui dit désintermédiation dit
suppression
d'une couche de frais. C'est pour ça qu'il faut pouvoir conseiller ses actifs dans le cadre d'un mandat de conseil.
Mais la question qu'on se pose avec la tokenisation, surtout de l'immobilier, c'est est-ce que ça ne va pas favoriser l'explosion des prix de l'immobilier, la spéculation immobilière ? C'est la seule crainte que j'ai en fait par rapport à ça. Parce que c'est clair que ça va rendre plein de services, ça va être très liquide, mais est-ce que sur la société, ça ne va pas être dangereux ?
Alors là encore, c'est une question de proportion. Lors de la crise des SCPI en 94-95, effectivement, les SCPI représentaient 60% du marché français. Ça a été une cata. Aujourd'hui, les SCPI, par exemple, représentent une portion beaucoup plus faible du marché français. C'est pas eux qui vont faire bouger le marché. Je pense qu'avant que la tokenisation immobilière agisse sur le marché de cette manière-là, on a encore 10-15 ans devant nous pour ça.
Ce sera régulé, Grégory, rassurez-vous.
On peut faire confiance à nos législateurs.
Quelles sont, malgré tout, les limites à la tokenisation ? Parce qu'on voit, on en parle depuis maintenant quelques années quand même, et puis c'est pas encore très grand public, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même peu de solutions encore disponibles sur le marché.
Alors, en Europe, on a un vrai problème, notamment sur l'immobilier, qui est la fiscalité. C'est-à-dire, la fiscalité, quand on a des jetons Realty, c'est compliqué. Mais la fiscalité, quand on veut faire de l'immobilier par morceau en France, on peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problématiques de droit d'enregistrement minimum à 25 euros. Donc si je commence à faire un token à 50 euros et que chaque fois j'ai un droit à 25, c'est même pas la peine. Donc aujourd'hui, clairement, on a une problématique de fiscalité en Europe. Ça, c'est vraiment notre... Et on sait très bien que la fiscalité, c'est pas pour rien qu'on a une fiscalité compliquée et qu'on n'arrive pas à la simplifier.
Donc la tokenisation se fera ailleurs, on peut l'imaginer.
Bah oui, la tokenisation se fera ailleurs parce que Realty, par exemple, vend dans 80 pays.
Oui.
Il y a une grosse comité en France. En Allemagne aussi.
Oui.
Ah bon ?
Oui, oui.
Et ils font quoi ?
On pouvait investir dans de l'immobilier de bureau à partir de 1 euro. Ça avait fait beaucoup parler, mais ça remonte à 2019, quelque chose comme ça.
D'accord. Donc ça, c'est une sacrée concurrence. Si les choses se développent, par exemple, au SCPI, qui propose aussi d'investir dans l'immobilier à ticket bas, parfois 100 euros, et là, on va peut-être encore plus loin dans la baisse des tickets
d'entrée. Les bonnes SCPI sont déjà posées des questions, et moi, je suis en contact avec une ou deux qui me demandent quelquefois des conseils.
Lesquels ?
Ah, mais ça...
Vous pouvez pas livrer leur nom en pâture.
Je fais partie d'un métier où on est obligé parfois de tenir un peu sa langue.
Bon, et vous vouliez nous faire part aussi d'une anecdote, Louis.
Ah, mais en fait, l'anecdote, c'est... on a dit au printemps l'année dernière, on a rabâché Not Your Key, Not Your Coins. Je sais que par rapport à des gens qui faisaient des trades magnifiques sur les marchés, c'était pas... ça donnait pas forcément envie. Et pourtant, nos clients ont toujours leur crypto, virgule E... d'une part. Sur Ethereum, globalement, ils peuvent prendre un peu de plus-value. Sur Bitcoin, ils sont très très proches de leur niveau d'entrée parce qu'ils ont acheté tous les jours et que là, ils viennent de passer une forte partie, où la baisse leur a permis de beaucoup baisser leur prix moyen pondéré. Et aujourd'hui, on est quasiment en plus-value à Bitcoin, on n'est vraiment pas loin. Et alors, en Ethereum, on a presque un tiers de plus-value, donc on leur a proposé pour certains d'alléger.
Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Louis de Froissart, Montaigne, Conseil et Patrimoine et cette ode à la tokenisation du monde. Merci Louis. Grégory, merci beaucoup. On peut tokeniser les baleines, The Big Whale?
Ah bah en tout cas, on a des NFT.
Ah, vous avez des NFT, c'est vrai.
Vous n'avez pas encore acheté?
Non, bah c'est pas gratuit.
Bah il y en a qui sont gratuits.
Ah, il y en a des gratuits. Ah, je vais peut-être regarder. Alors, Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés en direct. Bon retour. Dans un instant, la séance du jour, notre CAC 40 en forme. Hein, toujours, on est à 7091 plus 0,67%. On vous explique tout. On va revenir sur les nombreuses publications du jour et notamment STMicroelectronics. C'est la plus forte progression, plus 7%. Ce sera juste après la pause. Dans deux minutes. Donc à tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.